Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Vous êtes dans l'estaminaire de le rendez-vous techno, société et culture pop. Après 15 épisodes de ce podcast, on s'est dit qu'il était grand temps de nous présenter à vous, en fait, qui sont les gens qui sont derrière les voix, qui font cette émission, d'où viennent-ils, quel est leur parcours, quelle est leur passion, quel est leur réseau. On va vous aider à choisir celui que vous préférez parmi nous, en fait. Et parmi nous, bah, il y a Val. Salut, Val.
Eh hey, bien, bonsoir, aimez-moi.
Qu'est-ce que je te sers, Val?
Oui.
D'accord, on va pas boire ce soir. Est-ce que Chris sera plus inspiré? Salut, Chris.
Salut, Matt.
Qu'est-ce que je te sers, Chris?
Écoute, moi j'ai envie que tu me sers une petite eau pétillante, voilà, un petit truc léger, un petit truc un peu comme toi, tu vois, c'est frais, ça fait des bulles, non, je sais pas où je vais avec cette réponse.
Et on a aussi, évidemment, Mister Yanda. Salut Yanda.
Salut Matt.
Et qu'est-ce que ce sera pour toi, Yanda?
Eh bien écoute, de quoi entretenir cette voix suave et... non, ça me fatigue.
Du Fanta.
Ouais, ouais. Écoute, mets-moi,
un bon Fanta cancérigène.
Une petite bière maison. As-tu ça, quelque part, une fois? Voilà.
Oui. J'ai mon examen d'urine qui doit être au frais, là, donc...
À chaque fois, je te demande un truc, tu me proposes un truc dégueulasse à chaque fois, quoi.
Mais non, mais si je le passe à la Soda Stream, ça peut être un peu pétillant, tu vois, ça peut être cool. Non.
Il paraît que c'est avec ça qu'ils font la Königsbier chez Mutant.
Avec l'urine de Matt. Une bière aromatisée à l'urine de Matt. Elle est distillée, elle aussi, à base de passion.
On devrait monter un stand dans la rue et faire goûter la bière à l'urine de Matt. Ça pourrait marcher.
Ouais,
et on peut même le vendre.
Un petit bout de Saint-Vergeron.
Ouais, je pense que c'est légalement répréhensible. Je sais pas pourquoi, mais.
Bon, ouais, la loi, c'est quoi? La loi, c'est nous, hein?
Mais, écoute, ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Et ben voilà, pour être dans les clous de la loi, moi, je prends rien, en fait. Comme en fait, je pilote cette émission, je ne prends rien. Car vous le savez, celui qui conduit.
C'est celui qui ne boit pas.
Exactement.
Et celui qui a le permis.
Alors, petit épisode un peu plus court que d'habitude. Normalement, voilà comment ça va se passer. Chacun son tour. Un membre de l'équipe va répondre à une mini interview. Le but, c'est que ça dure 10-15 minutes à chaque fois. Autant vous dire que, ouais. Bah, on va faire plus long, hein, évidemment. On va répondre à tout ça sans filet et sans dégonfle. Oh. Et du coup, d'ici une heure, vous aurez toutes les armes pour vous lancer dans l'écoute de l'estaminaire. Il y a déjà 15 épisodes qui sont dispo avec des blagues, des guests, des trucs techno, des trucs de comics, des anecdotes de caca, tout ça. Moi, je commencerai bien par Mister Yanda.
Au hasard.
Mister Yanda, c'est quoi ton rôle dans l'estamineur? C'est quoi ta spécialité?
Alors ma spécialité, moi je suis quelque part, je dirais, genre, Monsieur Tech, on peut dire, Monsieur Algo, non, pas Monsieur Algo, mais Monsieur Tech, ouais, Monsieur Tech, c'est bien. Je vais apporter quelques sujets et réflexions communes, alors après qu'on avait nourri tous ensemble, mais voilà, autour des algorithmes divers et variés, de comment ça marche, de techno un peu plus au sens un peu plus large, la blockchain par exemple, la crypto-monnaie, tout ça. Des beaux souvenirs pour vous, je sais.
Alors évidemment, le but, c'est de se mettre à hauteur d'homme, hein, au service du public.
Voilà.
C'est-à-dire que on va rendre tout ça compréhensible.
Nous sommes des professionnels.
Ah oui, c'est ça.
C'est important.
Le professionnel. Et c'est quoi le truc là dont tu parles tout le temps avec où on clique?
Les liens d'affiliation. De quoi
soutenir?
Ah
oui, c'est ça, les liens d'affiliation.
Merci la communauté. Et au pire des cas, on peut faire des devis, sinon c'est pas grave.
Ouais. Donc on voit qu'en fait, il faut se méfier de ce que tu racontes. T'as quand même un passé de baratineur. Ou
non.
De commercial,
ouais.
Enfin, tu non. Vends n'importe quoi à n'importe qui.
Non, je vends des choses, j'ai vendu des choses dont tu ne savais pas que tu en avais besoin, en fait. Voilà, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et c'est moi qui te faisais comprendre, mais si, il te faut absolument ce truc. C'est parfaitement inutile, donc tout à fait indispensable.
Tu sais que c'est une phrase référencée, ça, hein ?
Ouais, je sais. Je suis pas sûr que ce soit la tournure exacte.
Totalement inutile, donc rigoureusement indispensable.
Voilà, je pense que c'est un petit peu plus ça.
C'était la phrase, ouais, de Bonaldi dans Nulle part ailleurs.
Mais c'est tout à fait vrai. C'est une bonne phrase de vendeur et de camelot. Mais non, après oui, j'ai fait de la vente, plein de trucs. J'ai vendu plein de trucs différents. J'ai vendu par téléphone. J'ai commencé à faire ça par téléphone. Puis après, je suis passé en magasin et j'ai vendu plein de trucs. J'ai vendu par téléphone. J'ai vendu des forfaits téléphoniques. J'ai vendu du vin. J'ai travaillé pour une marque de vente par correspondance. Et après, je suis parti en magasin, du coup, vendre du meuble. Après, j'ai vendu des chaussures. J'ai fait plein de choses. Et puis après, j'ai arrêté. Je me suis lancé dans une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je suis principalement développeur web.
Et maintenant, tu vends du rêve, en fait.
ouais, je sais pas si on peut dire que je vends du rêve, mais j'aime bien. Merci.
Elle est bien, ouais, elle est bien, ça, bien. C'est une phrase de pote, quoi.
Elle est validée.
À l'origine de notre rencontre, il y a ta chaîne YouTube consacrée aux comics, la BD américaine. Ouais. T'aimes bien ça, toi, les comics, en fait. C'est quoi ton gros centre d'intérêt comics?
Mon gros centre d'intérêt comics, quand je m'y suis remis, donc vers 2010, 2009, 2010, quelque chose comme ça, ouais. Parce que j'avais fait une pause lorsque j'ai déménagé de mon sud-ouest natal pour rejoindre la région parisienne.
Il y a une chaîne YouTube Yanda Early Years, c'est
ouais,
ça, avec les premières vidéos un peu de la honte.
Alors pas de la honte, non, c'est pas de la honte. C'est les premières vidéos qui sont pas du tout comics, qui sont gaming. Extrêmement original, mais pas du tout de la honte, j'assume complètement. C'était plutôt sympa à faire, mais j'ai assez vite tourné en rond parce que j'aime bien la vidéo et du coup en fait je me suis assez rapidement rendu compte que les possibilités, en tout cas que j'envoyais à l'époque sur les vidéos de jeux vidéo, c'était assez limité. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas autre chose qu'on pourrait faire? Et puis je me suis dit, j'aime bien les comics, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa sur ça. Et puis du coup, je suis parti sur ça. Alors j'ai réfléchi pendant longtemps à comment faire, quoi faire, et sur le comment. Et puis après, j'ai démarré cette chaîne, mais qui était vraiment dédiée à DC Comics, donc toutes les publications de l'éditeur américain DC Comics et de son... relais, si je puis dire, en France, Urban, puisque quand moi j'ai commencé à faire des vidéos, c'était Urban qui avait récupéré les droits de distrib et les licences d'ici auprès de Panini. Donc voilà, c'était... moi je parle exclusivement du coup sur la chaîne de titres publiés par DC et ou Urban Comics. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, mais je crois pas que j'ai parlé d'un titre Urban Indies qui du coup serait pas du DC. Je crois pas, mais non, c'est principalement du DC Comics.
C'est péché.
Ouais.
Urban Indies, c'est péché. Je vais vérifier pendant que tu dis ça. Pendant que tu nous parles de ta passion, parce qu'on a tous appris dans Avengers, le film, que Captain America était le plus beau cul de l'Amérique. Toi, t'as une passion pour le plus beau cul de DC Comics.
J'aime pas cette référence en plus. Non, alors en fait, il y a deux choses. Donc là, tu parles du personnage de Dick Grayson, pour ceux qui n'ont pas la couleur, qui nous écoutent. Donc Dick Grayson.
Donc Nightwing dans la vie.
Exactement.
L'ancien pupille de Batman.
Ouais. Et qui est aussi le premier, voilà,
Robin.
Le premier Robin. Et j'aime beaucoup ce perso, parce que c'est un personnage qui a évolué au fil des années, sur le plan personnage, puisqu'il a été Robin dans un premier temps, après il est parti, puis il est devenu Nightwing, etc. Mais aussi, sur le plan un peu plus personnel, on va dire, et background, parce qu'il a une histoire, il a un background, et du coup, il a grandi, il a mûri, il a traversé beaucoup de choses, et j'aime beaucoup la psychologie qui a été faite autour de ce personnage, et ce qu'il représente, et ce qu'il incarne, et donc, je suis très très fan, effectivement, de Dick Grayson, aka Nightwing, et cette histoire de plus beau cul de DC Comics, c'est parce que je crois que c'est parti de mémoire de Nicola Scott, dessinatrice australienne, si je ne m'abuse, qui avait effectivement fait et avec Gail Simone aussi, scénariste, qui avait effectivement tourné ça en présentation un peu pour faire un espèce de contrepoids à une époque où les personnages féminins avaient tendance à être ultra sexualisés et on retrouvait pas trop ça chez les personnages masculins. Et du coup, c'était parti un peu d'une blague, en fait, entre elles deux, puisque ce sont deux dames. Et en fait, c'est resté, et ça a vraiment... Alors, c'est devenu aujourd'hui un truc hyper classique et hyper référencé, où effectivement, on va dire « Ah, Nightwing, Dick Grayson, il y a un super cul. » Voilà, donc c'est vrai que comme tout...
Avec cette voix-là ?
Ouais, avec cette voix-là, tout à fait, ouais. Donc, c'est devenu un truc qui... comme toutes les blagues, en fait, qui durent, tu vois, c'est un peu comme moi, quand je parle des liens affiliés, tout ça, c'est chiant.
Ouais, mais toi, t'es drôle.
C'est vrai. Merci.
Val, il se fait kiffer parce que d'habitude, c'est toujours lui qu'on interrompt. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui avait interrompu les gens.
Mais c'est bien.
Pardon.
C'est bien. Non, c'est bien.
Non, mais j'aime bien. Il n'y a pas de...
C'est bien.
Ok.
Donc voilà, donc ouais. Donc,
je te l'aurais pas dit poliment.
Ça me fait un petit peu grincer des dents, toute proportion gardée, que on réduisent un petit peu ce personnage à ça, mais c'est bien parce que ça me fait ressentir ce qu'ont pu ressentir beaucoup de personnages féminins et de lectrices qui voilà avaient ce personnage et qui étaient ultra sexualisés et du coup étaient ramenés à cette espèce d'objet sexuel. Donc
Bah genre les lectrices de Wonder Woman qui voient une image d'émancipation et pour lequel le personnage est toujours ramené des canons de beauté physique et c'est des poses outrageantes. Tu as parlé, puisqu'on va tous apprendre des choses dans cet épisode, tu vas toi-même apprendre des choses, tu as parlé de The Wake, qui n'est pas du DC Comics, de Coffin Hill.
Exact, oui, et Coffin Hill, qu'on n'a jamais eu la fin chez Urban en plus.
Quelle déception. Et de Planetary.
Évidemment.
Qui aujourd'hui, bon, peut être ramené dans le giron de DC Comics, mais à qui à l'époque ne l'était pas. Mais sais-tu, notre histoire, évidemment. Du coup, lecteur comics, plutôt VO, plutôt VF, plutôt t'achètes sur Amazon, évidemment, parce que c'est moins cher.
Tout à fait, bien sûr. Amazon, Book Depository, tous les liens d'affiliation, je prends, je sponsorise. VO, VF, les deux. J'ai été pendant très 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 longtemps, pour des raisons d'accessibilité pure et simple, lecteur VF uniquement. Et lorsqu'un comic shop a ouvert juste à côté de mon boulot, Publs Bordeaux, donc pour ne pas les citer, puisque je les salue. Si vous habitez à Bordeaux, allez y faire un tour, ils sont top. Je ne suis pas rémunéré pour ce placement de produit, c'est gratuit. Mais
prouve-le.
Prouve-le, ouais.
En fait, on devrait faire des visites affiliées. Si tu vas chez Pulp, en disant que tu viens de la part de Yanda, ils mettent un tiret sur une ardoise. Et si t'as assez de tirets, tu peux avoir un bon d'achat ou un truc comme ça.
Ça serait trop bien. Il va falloir que je négocie ça avec eux après tout. Je peux leur faire un devis. Je suis sûr que je peux leur placer un devis. C'est des potes. Je peux leur placer un devis. Ils ont ouvert, ouais, quand je bossais donc à Bordeaux, juste à côté, et au détour d'une pause déjeuner, je vois au coin de la rue ils ont en enseigne en fait un panneau Spider-Man et je vois ce truc, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, et là je rentre dans la boutique, là je fais boah, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, c'est le paradis. Et donc du coup dans tous les mois et années qui ont suivi, je passais toutes mes pauses repas dans le magasin. Et donc petit à petit, en discutant avec Bruno de là-bas que je salue, je suis passé à la VO d'abord sur des singles et puis après sur des TP. Et aujourd'hui, je dirais que je suis à, je vais faire un tour rapide, je dirais 60% VF, 40% VO. Mais c'est vrai que quand j'en ai l'occasion. L'intérêt de la VO, c'est de pas trop faire, sauf quand c'est des titres Nightwing, de doublons, c'est-à-dire que t'achètes en VO, puis après tu rachètes en VF les mêmes titres. Ça, j'essaie d'éviter de le faire, mais forcément, tout ce qui sort outre-Atlantique n'est pas publié en France, et l'intérêt de lire en VO, au-delà de travailler son anglais, c'est aussi qu'on peut lire des choses qui ne seront pas publiées en France, et donc découvrir d'autres titres. Toujours chez DC, bien entendu, hein, je reste professionnel et éthique, mais ouais, voilà. 60-40, pour répondre à ta question de façon courte.
Le dernier truc que t'as lu ?
Le dernier truc que j'ai lu, alors fini ou pas fini du coup ? Parce que fini, c'est Flash Year One dont j'ai parlé, et celui dont je suis en cours, je relis Batman Créature de la Nuit en noir et blanc. Je le vois, il est là, il est juste là.
Waouh ! En speed, t'es plutôt quel genre de film au cinéma ? En fait, vous n'avez pas l'image, mais en fait, à chaque fois, Yonda se dit, tiens, il y a une question, je peux boire un truc, donc il porte le verre à sa bouche. Et en fait, la question est trop courte pour qu'il puisse boire, donc il n'y arrive pas. Donc depuis tout à l'heure, il secoue son verre, en fait, il essaie de boire, mais il n'a pas le temps.
Aujourd'hui, ça fait de la mousse. Aujourd'hui, je suis plus science-fiction. On va dire science-fiction, au sens large, mais je suis plus trop film, en fait, je suis devenu très sériephile par la force des choses. C'est compliqué pour moi d'arriver à me poser pendant une heure et demie, deux heures et demie à regarder un film que le rythme série des épisodes de 45 minutes, en général ça passe mieux. Donc je suis plutôt devenu très sériephile, je vais y arriver, mais science-fiction globalement, ouais.
On va en parler de cette histoire de rythme film-série dans un prochain épisode, parce qu'il y a un vrai sujet à creuser entre nous.
Je fais du teasing donc là, c'est ça ?
Sans le savoir, putain, évidemment. Excellent. Mais non, mais je du coup, on apprendra peut-être dans cette émission que Valentin a des accointances avec le cinéma. Qui sait ? C'est peut-être dans la suite de cet épisode. Mais du coup, il y a un débat série contre film à creuser entre nous. Ça peut être cool, quoi. T'as un acteur préféré ? Un truc genre, t'es un peu fanboy de quelqu'un ?
De qui je pourrais être fanboy. Voilà, ça c'est l'intérêt d'avoir préparé les réponses à l'avance aux questions. C'est que vous m'entendez réfléchir en même temps. Un acteur préféré. Bah j'ai alors la dernière grosse baffe d'interprétation que j'ai pris, c'est Rami Malek dans Mister Robot, que j'ai trouvé vraiment époustouflant. Et Christian Slater aussi très bon. Mais après. Je sais pas, non, j'ai pas de nom là qui me vient tout de suite en tête ou en tête.
Le jeu vidéo, ça joue un peu ? Comment ça marche ?
Ça jouait à l'époque, ouais, beaucoup moins maintenant, à mon grand dam. Je fais partie de ces gens qui. j'ai vu passer un strip dessus, mais qui court acheter Day One un jeu et qui dit ah trop bien, je l'ai acheté, c'est Day One, et puis qui le range dans sa bibliothèque et puis un jour j'y jouerai. C'est un peu ça. Je suis un peu dans cette dynamique là où alors plus Day One, même si c'est arrivé pour Red Dead Redemption 2 notamment, mais je l'ai toujours pas fini, mais ouais, ça j'achète des jeux de temps en temps, je commence un petit peu, je vais y jouer une heure, deux, et puis après j'y reviens plus parce que j'ai plus le temps. Donc j'y joue beaucoup moins qu'avant, j'ai été assez grand gros joueur, mais beaucoup moins maintenant.
C'est dommage pour Red Dead parce qu'en fait à la fin... Bon, sinon la vie ça va, la maison, la femme, les enfants, tout,
ouais, on
se met bien.
Ouais, on est là, hein, on est là.
Cette question de professionnel.
Ah, Yonda, j'ai besoin de ton investissement total.
Ah.
C'est quoi le dernier truc qui t'a gonflé ?
Le dernier truc qui m'a saoulé.
C'est pas un devis qu'on t'a fait, non?
Non, c'est pas un devis. Ça aurait pu, hein, cela dit, ça aurait pu. Si. Le dernier truc qui m'a vraiment saoulé, c'est ma.
Stop, attends. Est-ce que tu peux me le raconter façon lampe torche verse?
Yes, oui, on veut ça.
Je vous vois venir. Alors le problème, donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas la couleur, c'est que
tu vas dire une connerie. Sache que tu vas dire une connerie et que donc je vais te faire passer pour un con dès que tu auras fini ta phrase. Vas-y, je t'en prie.
Ah bon ouais. C'est qu'en règle générale, donc l'intervention que vous apprêtez à entendre, c'est une un peu quelque chose dans ce type-là. Le problème, c'est que Il est accompagné de l'utilisation d'un filtre qui, notamment, baisse ma voix d'un octave.
Et ben voilà !
Voilà, mais sauf que Matt, je suis sûr, il va régler le souci.
Mais la post-prod, putain, bah vous voilà. Avez jamais entendu parler de la post-prod ?
C'est fantastique. Alors attends.
Visiblement, c'est le Matt du lampe torche verse qui est là avec nous.
Putain, mais ouais, c'est ça, quoi. C'est ça.
Parce qu'en fait, je me disais, d'habitude, tu fais ce personnage, il y a un filtre. Ouais. Donc nous, on l'entend avec une voix filtrée. Mais toi, quand tu l'enregistres, t'entends pas le filtre, c'est un filtre Facebook.
C'est vrai.
Donc là, fais pareil. Et moi, je mets le filtre en post-prod. Okay. Et comme ça, on est bon.
Parfait, excellent.
Est-ce que du coup, on peut expliquer aux gens ce que c'est que le lampe torche verse?
Et ben justement, j'avais noté, c'était ma question d'après. Le lampe torche verse, je te laisse voir avec les gars pour qu'ils nous expliquent ce que c'est. Avant, je notais pour ma prochaine question.
Très bien.
Moi, je sais. Mais là,
je t'explique. L'explication du lampe torche verse, ça va se passer de façon très simple. Ça va être une patate chaude qui va être refilée à un de mes compères parce que voilà, je.
Je ne peux être. Je ne suis pas suffisamment qualifié pour répondre à ce type de questions et d'interrogation. Donc le dernier truc qui m'a saoulé, alors là franchement je vais te dire, c'est un bon fait. Franchement, ça m'a mis à bout. J'étais tranquille, tu vois. Je veux dire, j'étais quand même peinard, j'étais chez moi tranquille, tu vois, j'étais posé. Et là, qu'est-ce que j'entends? Ploc. Je me dis, ah, qu'est-ce que c'est ce bordel? Du coup je me lève, tu vois, déjà parce que j'étais assis tranquille, je me lève, je suis obligé de me lever, et là je me dirige vers ma salle de bain, puisque je me dis, attends, le ploc, c'est pas un bruit de pâte dans l'eau en train de bouillir, parce que je sais faire cuire des pâtes, mais je me retrouve dans la salle de bain, et là qu'est-ce que je vois? Oh enculé, de l'eau qui goûte sa race de mort, qui goûte de mon plafond et qui tombe sur mon sol. La putain de sa grand-mère, j'avais un dégât des eaux qui me traversait la salle de bain de l'étage pour arriver sur mon sol. Oh, enculé sa mère. Là, du coup, bordel, Trafalgar, je t'explique même pas la mouille. Aujourd'hui, la fuite est peut-être réparée, on sait pas trop. Hein, parce que tu vois, même le plombier, il est arrivé, il a passé 2 heures à travailler sur le bordel, il m'a dit, franchement, je sais pas. Alors, je lui ai dit, cousin, si toi tu sais pas, c'est pas moi qui vais savoir. Hein, chacun sa spécialité, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça m'a gonflé, parce que je suis encore à date, en instance de savoir si c'est réparé ou pas.
Petite fenêtre ouverte, sur lampe torche-verse, bien calme, hein, lampe torche-verse qu'on a pris par surprise, évidemment.
C'est vrai.
Ma dernière question, c'est, tu vas interviewer qui dans cette émission?
Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai été assigné à l'interviewage de V pour Valentin.
Oh là là!
Alors, restez bien à l'écoute de cet épisode pour savoir si j'ai raison ou pas.
Et ce sera juste après la pub.
Il a enchanté des millions de spectateurs. Pour Noël, il revient. La plus grande histoire d'amitié que le cinéma ait connue. E.T. l'extraterrestre est de retour. Il ne nous a pas oubliés.
Ouais, ben nous non plus, on l'a pas oublié, hein. Allez, mon grand, t'as tes papiers, tes titres de séjour?
Téléphone, maison.
Mais c'est pas la peine de téléphoner, t'y retournes de toute façon à ta maison.
L'histoire d'amitié entre un enfant et son ami venu de l'autre bout de la galaxie.
Mais on s'en fout d'où qu'il vient, il y retourne de toute façon. Oh, et puis, arrête avec ton doigt qui s'allume, tu m'énerves là.
E.T. 2. Cette fois, rentrer chez lui ne sera pas un problème. E.T. 2, disponible au cinéma et sur vos sites de piratage préférés.
Je n'ai pas de transition, Mister Yonda.
Ah d'accord, donc là c'est moi qui embraye sur l'interview avec V pour Valentin. Très bien, ok.
Si tu le souhaites. Si tu le souhaites.
Eh bien, bonsoir.
C'est parfait, c'est formidable. Déjà merci Matt pour cette superbe interview. Je pensais que t'allais partir sur plein d'autres trucs, mais c'est pas grave. Je m'étais préparé psychologiquement à répondre à plein de questions, mais.
Mais il y a des choses que tu voulais qu'on aborde, il y a des choses qui te semblent importantes que les gens qui vont écouter les Staminaires sachent sur toi. J'essaie de faire un truc un peu général. Quelles sont tes passions, tes angles, tout ça,
non,
quoi.
Ouais, c'est vrai. Non, je pensais que t'allais plus parler de, tu vois, les premiers échanges et contacts qu'on avait pu avoir, quand t'as essayé de me débaucher salement de DC Planète, tout ça, tu vois. Quand t'as balancé mon identité secrète à la PCE, quand tu m'as mis dans la merde avec me faire faire une trad.
Alors oui. Voilà, parce que c'est aussi les Staminaires, c'est aussi l'occasion de vous raconter des anecdotes personnelles qu'on vous a pas ou peu racontées si vous nous suivez depuis longtemps, et puis de vous faire marrer si vous nous découvrez et que vous nous connaissez pas trop. Je suis assez branché pseudo dans le sens où on a tous sur internet, sur YouTube, à la radio, enfin on a tous des pseudos machin. Et en fait, je suis assez en mode bah on s'appelle par nos pseudos même dans la vie. Comme ça, bah, ça évite de se tromper quand on est en direct. On prend l'habitude de s'appeler par nos pseudos. Et je le fais, en fait, globalement. Je le fais. La seule fois où je ne l'ai pas fait, en fait, j'ai appelé Yonda par son prénom, par son nom d'esclave, hein, comme disent nos amis qui ont souffert.
Quand tu as dit à tout le monde qu'il s'appelait Fabien...
Bah, je t'ai appelé par ton vrai nom devant tout le monde pendant tout le week-end de la PCE 2015.
Et alors c'était... non, pas pendant tout le week-end. À ta décharge, c'était pas pendant tout le week-end. C'est arrivé, je crois même, une seule fois, parce que tu t'es rattrapé
tout de suite.
Non, mais en mode...
Hey, il est où il est où le vrai nom?
Et c'était très drôle parce que je sais que t'étais vraiment pas bien, ça t'a vraiment fait chier. Et dans l'absolu, c'était pas grave parce que je sais même pas si les gens qui ont percuté, qui étaient là déjà, ont percuté. Et en plus de ça, s'en souviennent encore aujourd'hui. Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ouais. En nous laissant 5 étoiles, par exemple, sur le podcast. C'est un bon moyen de nous soutenir et un bon moyen de nous faire savoir que vous vous souvenez de cette anecdote. C'est intéressant. Mais voilà, c'était rigolo. Bref, du coup, j'enchaîne pour...
Ça valait vraiment le coup de raconter cette anecdote.
Mais bien sûr. Bah ouais. Bah on est entre nous. Je veux dire, on passe un moment entre nous, donc.
Entre potes, quand même... avec nos amis qui nous écoutent.
Exactement. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Grande forme.
Ah, je suis à fond.
Très bien. Dites-moi, V pour Valentin.
Oui.
On dirait le début d'un speed dating. Alors, grande forme. Ouais, ça va.
Alors, je vois écrit sur votre fiche que vous êtes.
Oui, alors quelques.
Oui. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai.
Oh, ben, il n'y a pas de souci, allons-y.
Et alors, vous, dites-moi, monsieur V pour Valentin, quel est votre rôle au sein de l'Estaminerd?
Ah là 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 là. Mon rôle de départ, c'était fact. Checker, mais ça s'est un peu perdu en route, j'avoue, parce que petite anecdote absolument pas intéressante, j'ai changé de micro, le pied de micro qui amortissait un peu les bruits que je faisais avec mon clavier et tout, je l'ai mis ailleurs et donc là j'ai un micro directement posé sur la table et je suis très gêné à l'idée de taper sur le clavier parce que je sais que ça fait des bruits absolument insupportables, donc je fact-check beaucoup moins les trucs qu'avant, les infos qu'avant, donc voilà, donc mon rôle drôle, c'est quoi? En off, on m'a dit que j'étais la victime. Voilà, donc c'est peut-être ça mon
c'est
rôle,
pas mal, ouais.
Être une éternelle victime.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Oui, oui.
Bah, j'ai entendu dire, oui, oui. Bah, à skip, tu vois, pour avoir écouté quelques épisodes, notamment de ce formidable podcast qu'est les Stamineurs, on m'a dit que vous aviez une prédisposition pour, alors d'une, la réalisation, mais surtout l'animation de quiz. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu ça?
Ah oui. Ça aussi, ça s'est un peu perdu en route. C'est pas faute de vouloir en faire, mais non. Bah écoutez, moi j'ai toujours apprécié l'émission formidable qui s'appelle le Burger Quiz depuis que je suis petit, et j'ai eu plusieurs occasions de plagier honteusement cette formidable émission à l'occasion de diverses soirées, et notamment aussi à Geek Life, qui est un formidable salon du Mans, au Mans, où j'ai pu faire deux quiz façon Burger Quiz dans ce festival. Et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, en effet. Mêler questionnaires de culture générale et humour fin et délicat, à base de prout le plus souvent.
Et alors du coup, qu'est-ce qui justement t'anime le plus? Est-ce que c'est de faire les quiz ou est-ce que c'est de les animer?
Tu préfères faire des tartines ou les manger?
La métaphore est très bien choisie et me facilite un peu la réflexion. J'aime bien les deux parce que, pour en faire... Non, attends, là je me suis trompé. Pour en manger, pour en faire... Non, mais du coup, j'aime beaucoup participer à ce genre de quiz parce que les faire, c'est beaucoup plus long quand même que de participer pendant une heure ou deux à un quiz. Le temps de préparation est extrêmement plus long, mais il y a la satisfaction après d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé un petit quelque chose qui va amuser les gens, et ça fait toujours plaisir. Donc j'aime bien les deux. Mais après, je participe pas souvent à des quiz pour le coup, encore plus à des quiz de type Burger Quiz. J'en ai pas fait beaucoup, mais je sais que ça m'amuse parce qu'en fait, moi, je connais déjà les réponses à mes propres quiz, donc je peux pas y participer, c'est dommage.
Ah bah oui, c'est dommage. Ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Et ça ne veut pas.
Je crois pas que Yonda ait déjà participé à un de tes quiz à Geek Life d'ailleurs.
Ce serait bien qu'ils viennent, un de ces quatre.
C'est vrai.
Participer, ouais carrément.
Ah, mais si vous faisiez pas ça en même temps qu'Angoulême aussi, je le dis.
Bah du coup, on a annulé Angoulême cette année, donc c'est quand même plus d'excuses.
C'est vrai. C'est vrai. Et il y a un autre truc. Val, je peux vous appeler Val?
Tu peux, tu, voilà, tu pouvais, merci. Absolument.
On peut même se tutoyer. Oh bah dis donc, c'est vraiment du speed dating, hein, faut que ça aille vite. Y a un autre truc que...
Pardon, je suis allé trop vite.
Donc c'est censé être la première émission que les gens écoutent.
Ah la vache, je suis en train de dire ça aussi, je fais oh là là.
Je suis
là,
pas
là,
sûr
là,
que ça... C'est peut-être pas une bonne idée en fait.
Ouais. Ça va aider à choisir son camp, quoi. En tout cas. au-delà de la réalisation et l'animation de quiz, j'ai eu ouï dire aussi, parce que j'ai eu l'occasion de voir que tes compétences ne s'arrêtaient pas en fait au développement de quiz. Tu es même en capacité, et tu as pu le prouver, que tu sais mettre en place et organiser vraiment des jeux de rôle à part entière, ou même des jeux de type loup-garou, on va dire, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Notamment, le confinement a été l'occasion, je crois, de faire un petit jeu via Messenger.
Oh yo, mais dis donc, vous êtes extrêmement bien informé, ouais, monsieur.
C'est un métier, vous savez, c'est un métier, je suis professionnel.
Et vous êtes aussi très surprenant. Je ne pensais pas que vous alliez vous diriger là-dessus. Oui, effectivement, pendant le confinement, j'ai fait pour amuser la galerie et d'éteindre un peu l'atmosphère. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi, quitte à être tous isolés chez nous en même temps, pourquoi ne pas participer tous à un petit jeu de rôle en fait, qui s'appelait je ne sais plus comment, bref on s'en fout, l'idée c'était que comme
c'est un peu long comme nom, mais bon
C'est ça. Tel le jeu de société Loup-garou, donc où parmi des villageois se cache un loup-garou qu'il faut réussir à débusquer avant que celui-ci ne tue tout le monde. J'avais réuni un groupe d'amis via sur un groupe Messenger à part, et parmi toutes ces personnes, il y avait quelqu'un de virtuellement infecté. Et tous les jours, il y avait un système de vote et un système de contamination assez je dirais pas élaboré, mais en tout cas trop long à expliquer ce soir. Et donc voilà, ça a duré une semaine, il me semble, et c'était plutôt rigolo. Et j'ai filmé les parties d'une certaine façon. J'ai demandé à chacun
en plus, c'est trop une blague François Pérusse, filmer les parties. Et absolument. C'est marrant que tu l'aies pas vu venir, quoi.
Et du coup, j'ai demandé à tout le monde de voter en vidéo, en mode Koh-Lanta et tout. Et donc, à la fin, j'ai fait un petit résumé de tout ça que vous ne verrez jamais puisque c'est privé, c'est entre les copains. Mais voilà, il y avait un petit... J'ai fait mon propre jeu télé, on va dire, pendant ce confinement. C'était assez rigolo à faire, ouais, absolument.
Très bien.
Tout à fait.
Pour en revenir à ce qu'on a tous en commun et ce qui nous a fait nous rencontrer, tu es, si je ne m'abuse, de nous quatre, le plus ancien présent sur cette formidable plateforme qu'est YouTube.
Ah ouais, une plateforme.
Ouais, je sais que tu portes hautement dans ton cœur. encore plus aujourd'hui. Oui. T'as démarré comment, toi, YouTube, et il y a combien de temps ?
J'ai démarré YouTube en décembre 2006. Avec un petit montage nul, une fausse bande-annonce de Metroid Prime 3. Et ensuite, j'ai enchaîné avec, mais ça, vous la connaissez, l'histoire, on en a déjà parlé ici, j'ai enchaîné avec les lip-sync des 2 minutes du peuple. Et encore récemment, j'ai reçu quelques commentaires de gens qui me disaient « Ah, c'était trop drôle dire que je regardais ça quand j'étais ado, et maintenant je suis adulte et je le regarde plus. » Donc, je dis ça avec un peu de cynisme, mais en vrai, ça me fait super plaisir. Il y a plein de gens qui reviennent en me disant « Ah, dis donc, je l'avais oublié, mais en fait, il me faisait trop rire quand j'étais au collège. »
Tous les gens qui te parlent ont quand même une drôle de voix.
Ouais, c'est une drôle de voix, ouais, on est d'accord. Mais du coup,
et là, il n'y a pas de trucage. Non,
c'est vrai, il n'y a pas de trucage. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question, mais...
Comment
voilà.
T'as démarré YouTube il y a combien de temps ? Donc ça répond,
ah oui, c'est ça.
Ça répond à peu près, effectivement.
Et j'ai démarré YouTube parce que je m'étais entraîné, j'ai découvert le montage et que j'essaie de trouver un moyen de diffuser mes créations, entre guillemets.
Et tes œuvres, voilà. N'ayons pas peur des mots, tes œuvres.
Mes œuvres, voilà. Et maintenant, c'est une partie de mon métier de travailler dans la vidéo. Donc, comme quoi, cet événement d'il y a 14 ans m'a forgé quelque part, et ça, c'est beau.
Et alors, 14 ans donc de présence sur YouTube, professionnellement, qui t'a amené un petit peu à quelque chose de rattaché à ça, donc cool. Mais par contre, 14 ans, est-ce que t'estimes aujourd'hui avoir suffisamment d'abonnés pour dire que t'as percé dans le game ?
Oula, absolument pas. Non, j'ai pas percé du tout.
Et tu le vis bien ? 14
000 abonnés. Je le vis bien maintenant, je m'en fous en fait. Il y a eu une période où ça m'a un peu saoulé. Mais maintenant, oui, j'en ai pas grand chose à foutre. Et je peux même aller un peu plus loin. Donc là, je bosse sur une série.
Je viens avec toi. On y va. Allez, vas-y.
Ah, formidable. Vas-y. On va faire un petit bout de chemin ensemble.
Allez, zou.
J'adore ce date. Là, je travaille sur une web série de détournement qui s'appelle donc Ocus, n'est-ce pas ? L'idée, c'est de faire une série avec une vraie histoire et des personnages qui évoluent, mais donc pris de films différents, donc notamment beaucoup de films avec Keanu Reeves et Al Pacino, puisque ce sont les protagonistes de l'histoire. En fait, YouTube me strike les vidéos parce que j'utilise des extraits de films. Toutes les plateformes le font globalement, ce qui fait que j'ai été obligé, avec l'aide de quelqu'un d'exceptionnel de présent ici ce soir, de créer un site web.
Yanda.
Absolument. Mon intervieweur Yanda a créé un super site pour Ocus, un très très beau site que je ne peux pas vous donner maintenant l'adresse puisqu'on n'a pas encore acheté le nom de domaine. Bref. mais en tout cas, le site, il est beau. Et du coup, je diffuse à cet endroit-là la série. Ça, c'est une chose. Et en parallèle, j'ai, je diffuse en direct à des gens la série dans des endroits de boissons qui s'appellent des bars. Et j'ai les retours comme ça des gens qui et que je peux constater directement les retours. Et alors, il y a 30... La dernière soirée, Covid oblige, il y avait une salle complète de 30 personnes. Et bah c'était beaucoup plus gratifiant et plaisant pour moi de les voir rire en direct que d'avoir mettons 5000 ou 10000 vues sur une vidéo YouTube avec quelques commentaires seulement. Ça me fait beaucoup plus plaisir de voir en direct les réactions des gens. Et je dis pas ça par déni ou par dépit, en mode bah oui, en même temps vu que tu les as pas, ton nombre de vues, t'es obligé de te rabattre sur autre chose. Non, sincèrement, ça me fait vraiment beaucoup plus plaisir de voir le direct, le réel. J'essaie de plus en plus de pas de me couper d'internet, mais de prendre de la distance avec ça en fait. Donc retrouvons les vraies valeurs et les bonnes choses et les bonnes discussions autour d'une table.
C'est cool. Alors je sais pas si on peut le dire, mais bon, c'est pas grave, je prends le risque quand même. Il y a quand même de fortes chances, parce que Chris nous l'a annoncé, que son patron a validé une organisation d'une soirée dans le bar où il bosse pour que tu puisses aller diffuser au CUS. Donc il y a quand même un pourcentage de chance assez fort que tu organises quelque chose dans l'endroit où il bosse, quoi.
Dans le, voilà. au bar de Chris.
Ouais. Voilà, oui, boss, c'est pas le sien. C'est le projet qu'il est en train de construire. Donc voilà.
Mais il est que, bah, absolument. Bon. Mais oui, tout à fait.
Très bien. Bon, je sais pas si on avait pas le droit de le dire, mais c'est pas grave. Comme Chris n'est pas là, il est en train de dormir. On va attendre qu'il revienne. Et puis, du coup, alors pour terminer, j'ai une vraie question. Ah, il ronfle sale en plus. C'est déjà.
Il se zombifie.
Ouais, c'est ça. Il est en train de décéder. On ne sait pas. Dernière question.
C'est le Covid.
Les vrais reconnaissent les vrais. J'ai envie de dire. Toi-même, tu sais. T'es plutôt Team Marvel ou Team DC?
Ah bah si on s'est rencontrés ici ce soir, c'est parce que nous avons les mêmes accointances, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Et effectivement, je suis beaucoup plus Team DC avec qui j'ai grandi. J'ai commencé tout minot avec Batman, la série animée, puis Superman. C'est quoi? C'était les nouvelles aventures de Superman, je sais plus, le dessin animé aussi. Ah, et Lois et Clark, évidemment. La série Lois et Clark avec voilà,
hein, avec
Terry
Kane,
Hatcher et ouais. Kane, voilà, Dean Kane, c'est ça, je savais plus son prénom, Dean Kane et Terry Hatcher, tout à fait. Ouais, DC Forever, ce sont des personnages que j'aime beaucoup que lire dans les bouquins.
Merci mais pour Valentin.
Il y a pas de souci, c'est un vrai plaisir.
Toujours comme d'hab. Et alors du coup toi tu t'interviewes quelqu'un ce soir ou non?
Ah oui, ben moi je dois interviewer justement notre barman préféré qui a aussi été, Matt le coupera au montage, mais qui a aussi été lobbyiste chez Danone. Je parle évidemment de cet homme aux multiples métiers, Chris de Commissrez. Absolument, bonsoir.
Bonsoir Valentin.
Comment allez-vous?
Ben ça va et vous-même?
Ça va, formidable.
En fait, c'est des gens intéressants, ce speed dating un peu dont tu croises des gens sympas.
Je rencontre des gens exceptionnels, attentionnés. Enfin voilà.
Ah, pas moi j'ai croisé que
très
des connards.
Aussi.
Ah, putain, que des cons.
C'est vraiment un plaisir de vous entendre galérer sur les transitions.
Non, attends, ça s'est fait en
celle-là était fluide.
Ah,
celle-là était belle.
Putain, on sent vraiment le mec dans son métier, le mec jaloux, quoi. Putain,
il est jaloux.
On peut vraiment plus rien dire, quoi. C'est vraiment.
Non, moi je vais faire une interview très académique que j'ai préparée en 2-2. J'en ai profité aussi pour faire de ce boulot à ma place, à des gens. J'ai complètement mal formulé
T'es
cette
phrase.
T'es
vraiment un mec de droite, hein, putain.
Mais oui,
quel complètement. Quoi.
J'ai demandé sur Twitter si les gens avaient des questions à te poser, mais comme je l'ai fait il y a juste 40 minutes, bah du coup j'ai pas beaucoup de questions, donc je vais laisser un peu les gens répondre et je vais poser mes propres questions avant de revenir sur Twitter. Alors, dis-moi, qui es-tu, Chris?
C'est une vaste question. Je suis Chris, je suis un être humain, avec deux jambes et deux bras. On se croirait dans une...
Tu...
J'ai pas
tu
entendu.
Es proche de la, tu es proche de la quarantaine?
Non, je suis quand même encore plus proche de la trentaine pour l'instant, mais, mais je vieillis, hein, je suis sur la pente descendante, hein. Mes heures sont comptées comme nous tous d'ailleurs.
Et oui, absolument. Dis-moi, Chris, question piège. Enfin, je sais pas si je vais te piéger d'ailleurs, mais donc tu as une chaîne qui s'appelle Comics Raze. Et.
Dis-le alors, encore, j'aime bien comment tu le prononces.
Comics Raze. Alors, tu sais certainement à peu près la date de publication de ta première vidéo. Est-ce que tu connais par contre le sujet? Est-ce que tu sais ce qu'est ta première vidéo sur ta chaîne?
Ça devait être aux alentours du 20 août 2013 et c'est une vidéo sur le magazine Fantasque de Lug, voilà.
Absolument. Ouais. Et absolument. Et
la, on voit le patron de quiz qui s'est réveillé en Valentin d'un seul coup.
Et la deuxième, c'est celle sur Jordi. C'est,
ah la vache, tu peux remonter jusqu'à où comme ça? Vas-y, la troisième.
Jordi, après, ça doit être l'homosexualité dans les comics.
T'as la page devant toi ou pas?
Non, non, pas du tout. Non, j'ai, okay. Je suis absolument pas devant. L'homosexualité dans les comics. Après,
c'est ça.
Je crois qu'il y a celle sur les Tortues Ninja.
Ah, bon, juste trois, ça va alors.
Ah si, avant, il y a parfaire sa culture comics. Non, il y a
ouais,
pas ça.
Et encore, ouais, et encore avant, t'as les super-héros face à la mort.
Ah oui, j'ai celle-là. Ouais, ouais, tu vois, je suis pas si incollable que ça. Mais...
Ah oui, après t'as l'Apocalypse, t'as Il casse tout, et ensuite t'as les Tortues Ninja.
Ah ouais, il y en a eu entre deux, tu
quelle
vois.
Quelle déception.
Ah, j'en ai oublié,
j'en ai oublié. En fait, tu n'es qu'un pauvre mortel.
Bah oui, je ne suis qu'un homme, hein, j'ai des fêlures.
Quelle déception.
Non mais t'as les trois premières, c'est bien. Et du coup, je l'ai pas revu en entier, mais mine de rien, j'ai regardé un peu le début de ta toute première vidéo. C'est très drôle.
C'est vraiment de la merde.
Tu es beaucoup plus sérieux que maintenant. En fait, c'est surtout ça qui m'a interloqué. En plus de cette coupe de cheveux, toi qui as de si beaux cheveux,
très proche de la tienne.
Maintenant, ouais, toi qui as de si beaux cheveux, à l'époque, tu as décidé d'avoir la même coupe que moi, et je trouve ça bien, bien dommage. Mais ouais, un éclairage assez jaune. mais après, ça se comprend, on entend
ça
bien,
se respecte,
on entend quand même
ça
bien
se respecte.
Ce que tu dis. Oui, voilà. Non, non, et surtout, tu n'as pas de montage.
Il y a très peu de montage.
Tu as mis des couvertures, mais il n'y a pas de glissement.
Il n'y a pas d'image, il n'y a que des plans caméra et des incrustations d'images, mais il n'y a pas d'image de comics en plein écran.
Du coup, tu as fait seul plan parce qu'au bout de 29 minutes, ta caméra s'éteint ou pas? Comment
Non, ça par contre, j'ai jamais fait ça. J'ai quand même toujours eu un peu d'amour propre. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant parce que Comics Race, ça fait 7 ans que je fais ça du coup. Et si tu prends, par exemple, tu prends la première vidéo de 2013, prends une vidéo au hasard en 2014, une en 2015 et ainsi de suite. Et en fait, tu verras que ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, depuis quelques années, c'est érodé, c'est toujours la même chose et tout ça. Mais c'est pas vrai. En fait, moi, si je regarde des vidéos de 2016 ou 2017, il y a des différences, tu vois, dans ma façon de faire, dans ma façon d'animer. Il y a plein de trucs qui changent et qui évoluent au fur et à mesure des années.
Ouais. Alors, ceux qui pensent qu'ils changent pas, c'est pas vrai, il a dit.
Non mais c'est pas ça. Mais je pense en fait les gens ont tendance à penser qu'un format érodé, tu sais, genre que le mec fait toujours le et en fait non, sans s'en rendre compte, c'est pas des trucs calculés, mais sans s'en rendre compte, notre façon d'animer, notre façon de monter, notre façon de présenter change et notre façon d'être change sans qu'on puisse s'en rendre compte.
C'est ce que j'allais te demander. À quel point tu analyses ton travail et à quel point tu est-ce que tu te dis vraiment allez ça je change au prochain épisode, ça je fais. Est-ce que tu analyses beaucoup ce que tu fais?
Peut-être pas d'épisode en épisode. Après oui, il y a forcément des étapes, enfin, de toute façon, comme tout processus créatif, il y a des étapes où t'es super motivé, des étapes où t'es super démotivé, des étapes où t'as plein d'idées, des étapes où tu te dis toutes mes idées d'avant c'était de la merde, je recommence tout à zéro. Enfin, je pense que là, on est tous les quatre dans ce genre de situation là régulièrement. Non, Matt, il se trouve génial tout le temps, mais et donc, ouais, non, bien sûr, il y a tout le temps des trucs que tu dis, ah, je pourrais essayer ça ou ça, mais souvent, c'est des petites choses, quoi, c'est des détails quasi invisibles, et puis en fait, c'est le cumul de tout ça au fur et à mesure du temps. Qui fait que les formats évoluent quasi naturellement en fait. Je pense que c'est un truc c'est une sorte de glissement naturel vers certaines pistes où t'es plus ou moins à l'aise, plus ou moins des trucs. Enfin des fois tu vas essayer un truc, tu trouves que ça rend super bien, tu vas continuer. Des fois tu vas l'essayer, tu te rends compte que ça marche pas, bah, tu vas pas le refaire. Et il y a aussi plein de choses inconscientes, c'est ce que je dis quoi. Ma façon de parler elle a changé au fur et à mesure des vidéos et c'est pas un truc que j'ai spécialement travaillé en fait. C'est au fur et à mesure que t'en fais, que tu rôdes certains types de discours, certains gimmicks, tu vois, certaines petites phrases de relance, etc. C'est des choses qui sont venues vraiment au fur et à mesure, ça.
Parce que là, je vois, enfin, sur le peu que je vois dans la vidéo, t'es beaucoup plus sérieux que, par exemple, ce que tu faisais avec ton frangin. Donc c'est Arrête où mon geek va tirer, une émission. Peux-tu nous en parler, tiens, d'ailleurs?
En fait, est-ce que tu veux que je te refasse la chronologie? Mais je l'ai déjà faite un peu dans le podcast, ouais, sur comment se lancer. Mais ouais, en gros, mes premières vidéos, je les ai faites avec mon frère. En fait, lui faisait déjà de la vidéo sur les jeux vidéo. Il m'a proposé d'en faire quelques-unes avec lui où on a fait 2-3 conneries ensemble et tout. Et suite à ça, on a lancé un format qui s'appelait Arrête où mon geek va tirer. C'est le premier vrai format qu'on a lancé sur YouTube. En fait, avant ça, on postait nos vidéos ailleurs. Et donc, on a lancé ça en 2011 avec vraiment 0€, quoi. Les premiers costumes, c'est genre je crois que c'est une serviette de bain qui sert à faire une perruque, des cheveux, tu vois, c'est un truc complètement. Et très vite, le concept s'est fixé sur on résume un incontournable de la pop culture en 2 minutes et on fait des costumes en carton pour bien appuyer le propos. Donc, j'ai fait des Goldorak en carton, des DeLorean de Retour vers le futur en carton, des Chevaliers Zodiac en carton, une armure du Doomguy en carton. Voilà, j'ai fait plein de trucs en carton. Et voilà, et c'était très très nul, mais les gens m'ont gardé un très bon souvenir, comme quoi les gens ont mauvais goût. Voilà.
Il y a tellement de toi dans cette, juste dans la dernière phrase, c'est énorme.
Quand toi tu as lancé Comics Race, tu voulais partir sur quelque chose de plus sérieux à la base, du coup, manifestement.
Pas forcément, parce que je crois que si tu regardes Il casse tout, qui est un des épisodes suivants, je suis déguisé en Miley Cyrus avec un marteau. Voilà, donc c'est pas franchement plus sérieux. Non, d'ailleurs, l'une des personnes qui m'a conseillé de faire un contenu plus sérieux lors de notre première rencontre, donc à la PCE 2014, je crois, c'est un gars que tu connais bien, c'est Laurent Lefeuvre. On a discuté un petit peu de Comics Race, il connaissait un peu, il avait regardé 2-3 trucs, j'avais dû parler de Foxboy déjà à l'époque, je crois.
Voilà, donc c'est Laurent Lefeuvre, c'est l'auteur de Foxboy, du coup,
entre autres,
super-héros
rennais. Et en fait, il m'a dit, en fait, c'est quoi, à l'époque sur YouTube, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient de l'humour, tu vois, c'était l'époque, la pleine explosion de Norman, Cyprien, tout ça. Et il m'avait dit, mais en fait, finalement, c'est pas nécessaire, je pense que tu peux faire des vidéos très sérieuses sur la BD et les gens regarderont quand même parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des tas de pistes à explorer qui nécessitent pas nécessairement de faire des blagues. Et il a raison. Alors ça m'empêche pas de faire des blagues de temps en temps, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, oui, j'ai eu tendance à partir dans une direction assez différente où je faisais plus de voilà. Au début, j'avais encore des fois des costumes ou des trucs un peu what the fuck, et j'ai abandonné tout ça pour me concentrer sur l'écriture, ouais, pure et dure, on va dire, qui est quand même l'exercice que je préfère dans Comics Race. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune notion de montage, en termes de technique audio vidéo, j'ai des notions hyper basiques, tu vois. Et ce que je kiffe, c'est écrire les vidéos. Si je pouvais, si j'avais les moyens, je ferais en sorte que quelqu'un filme, quelqu'un fasse le montage à ma place et tout ça, tu vois, parce que c'est pas la partie que je préfère dans l'exercice, même si il y a toujours des trucs intéressants à en tirer, mais ce que j'aime vraiment, c'est écrire la vidéo, puis ensuite animer le truc, enfin, tu vois, et faire les voix, tout ça, mais tout l'aspect technique et tout ce qui s'ensuit, c'est pas forcément un exercice où je suis super à l'aise parce que j'ai aucune connaissance particulière là-dedans, quoi. Mais...
Demande à Valentin, il te fera un devis.
Exactement. Non, mais par contre, un exercice où tu, alors je sais pas si tu aimes le faire, mais en tout cas tu nous en parles beaucoup en off. Tu nous dis ce que tu veux à ce sujet, mais je sais que tu analyses beaucoup la portée de tes vidéos sur YouTube et que c'est une partie en fait vraiment comment dire assez prégnante dans ton travail en fait d'analyser ce qui marche, ce qui marche pas, d'essayer de jouer avec l'algorithme. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que t'aimes bien faire ça déjà? J'ai l'impression
que
oui, mais
c'est un truc compliqué parce que comprendre l'algorithme, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les gens, c'est-à-dire que l'algorithme, il se façonne comme on en a déjà parlé dans des épisodes précédents que les gens écouteront après, puisqu'ils écoutent d'abord ce premier épisode 0 -1, je sais pas trop comment on va l'appeler,
le flashback.
Non, ouais, voilà. En fait, l'algorithme, c'est un truc qu'on lâche dans la nature et il se façonne selon les recherches des gens, selon les goûts des gens, selon les pratiques des gens. Et c'est-à-dire que si tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends aussi en partie comment fonctionnent les gens. C'est-à-dire ce qui attire leur attention, ce qui va les retenir, ce qui va les faire venir, ce qui va les faire revenir. Et du coup, ça m'intéresse parce que tu vois, la BD américaine, en plus les comics par nature, c'est un petit truc de niche, tu vois, c'est vraiment un milieu qui parle à quelques centaines de passionnés. Enfin, on peut le dire, quoi, c'est des poignées de personnes vraiment. Et je me dis, si la machine arrive à analyser les comportements de ces gens-là, c'est intéressant de voir ce qui attire l'attention des gens et pourquoi quand tu parles d'une histoire en donnant son vrai titre, les gens ne cliquent pas, alors que si tu transformes le titre en une phrase beaucoup plus accrocheuse pour raconter exactement la même chose, les gens vont plus cliquer, tu vois. Enfin, il y a tout un aspect psychologique de consommation et de d'attraits souvent malsains d'ailleurs, hein. les gens aiment bien les trucs un peu tordus et ils aiment, en fait les gens se plaignent souvent du putaclic, du racolage, etc. Mais 100% des gens qui se plaignent d'un contenu putaclic ont cliqué parce que c'est putaclic, tu vois, c'est évident. Donc il y a tout ça, moi, qui me fascine assez dans les comportements sur internet, et du coup j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, non pas spécialement pour avoir toujours plus de vues, toujours plus d'abonnés, c'est pas forcément ça le but final, mais c'est, ouais, c'est comprendre le fonctionnement de tout ça. Et comprendre le fonctionnement des gens qui se cachent derrière et qui font fonctionner le truc, quoi. Enfin, qui font fonctionner le truc malgré eux, hein. C'est pas les gens qui ont créé l'algorithme, mais les gens qui l'utilisent, quoi.
Yes, moi par exemple ça me fait chier, mais je vois que t'aimes bien tâtonner là-dessus pour essayer un peu de démêler tout ça, et je suis assez fasciné par cette envie-là et aussi par les résultats que tu trouves, parce qu'effectivement tu as on le voit sur les résultats de ta chaîne, c'est aussi parce que tu fournis du travail de qualité, mais c'est aussi parce que tu sais jouer avec l'algorithme, et donc c'est pour ça, je pense, que tu as de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues aussi. Peut-être me contrediras-tu, je ne sais pas.
En fait, j'ai toujours de plus en plus d'abonnés parce qu'il y a un rythme constant. Mais en fait, j'ai jamais eu d'explosion. Tu vois, la chaîne en 7 ans a toujours pris constamment à peu près 3000 personnes par an. On est à peu près à ça, 3000-4000 personnes. Tu vois, là, je dois être à 26000 abonnés, un truc du genre. Et donc, en gros, ouais, tu vois, en 7 ans, j'ai pris 3000-4000 personnes par an. À peu près, ça a toujours été le standard. Et j'ai jamais eu d'explosion particulière. J'ai jamais eu non plus de grosses pertes d'abonnés. Mais après, je trouve ça presque pas plus mal. Enfin, moi, je cherche pas spécialement la notoriété. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la rue. J'ai envie de faire mes courses tranquille, tu vois. Mais je trouve ça bien. En fait, c'est la preuve que, tu peux constamment intéresser de nouvelles personnes, justement sans miser sur un truc en particulier. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui m'ont ramené du monde alors qu'elles parlent de thèmes absolument perchés ou pas du tout grand public. Et le but de Comics Rise, ça a toujours été ça. Ça a été d'aller chercher les gens qui s'intéressaient pas à la BD et de leur dire, dans les BD de super-héros, il y a aussi des thématiques sociales, des thématiques culturelles qui peuvent vous rappeler des choses que vous connaissez dans la vie de tous les jours et qui sont traitées avec un certain angle, et enfin voilà, j'ai toujours trouvé ça intéressant que dans la fiction on puisse retrouver des tas de choses du quotidien et qu'on puisse les approfondir et les analyser peut-être mieux parfois que dans de vraies études scientifiques à peu de choses près. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu manichéen parfois la BD de super-héros, mais il y a plein de thématiques qui sont super intéressantes et qui sont plus faciles à approcher à travers les aventures d'un personnage fictif parfois qu'à travers un rapport ou le truc réalisé par un chercheur hyper calé avec des mots compliqués dedans, quoi.
Yes, on va passer.
J'aime beaucoup ton enthousiasme à la fin de mes réponses. Yes, bon, il nous a bien cassé les couilles avec sa réponse de merde.
Non, mais c'est parce que je ne sais pas comment transitionner avec ce qui va arriver. C'est pour ça. Du coup, on va passer aux questions des tweetos à qui j'ai demandé s'ils voulaient savoir des choses sur toi. Ça va aller assez vite. Il y a pas beaucoup de réponses. En même temps, j'ai pas tweeté ça très très tôt. On commence par Punky.
Non, je pense surtout que les gens s'en battent les couilles de moi, en fait. C'est pour ça qu'ils ont pas posé de questions. C'est pas
non,
une question
parce qu'il
de
y a
temps.
Il y a plein de retweets, en fait. Donc je pense que si les gens ont envie de savoir des trucs, mais ils savent pas quoi. Là, j'ai Punky qu'on a reçu en première invité de ce podcast dans l'épisode 10, qui ne pose pas de questions, mais qui dit le zizi. Alors, peux-tu nous parler de ton rapport avec le zizi, du coup, puisque ça intéresse Punky?
Eh bien, il s'avère qu'il a visé juste, car j'en suis effectivement doté. Je possède un zizi. Voilà, c'est vrai. C'est la vérité. Voilà, je vous le dis.
Est-il de bonne facture? Ça, c'est moi qui pose la question parce que ça m'intéresse.
Eh ben, écoute, en matière de facture, moi, je te ferai un devis d'abord, et après, on verra pour la facturation. Hein, parce que...
Formidable. J'ai une question d'un certain Matt. Sur Twitter, qui me demande, qui demande du coup à Chris, si tu devais faire un clash, ce serait avec qui?
En fait, les clashs, tout le monde a envie des fois de clasher des gens. Et en vrai, c'est usant parce que ça donne de l'affichage à des gens qui n'en méritent pas nécessairement. Et c'est quelque chose J'ai jamais trop participé à tout ça, mais j'en suis définitivement revenu quand j'ai compris qu'il y a des gens qui avaient misé, qui avaient construit, qui existaient à travers ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à proposer, n'ont rien à produire, ne savent peut-être rien faire, on n'a pas envie.
Vous parlez de moi là ou non?
Est-ce que tu peux me laisser fier d'expliquer mon petit point de vue? Il y a des gens en fait, je pense. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que effectivement ils savent rien faire? Est-ce qu'ils ont peur d'être mis en concurrence? Est-ce qu'ils ont peur d'afficher leur travail et qu'on les mette en difficulté en le critiquant? Toujours est-il que leur seule raison d'exister, c'est de critiquer le travail des autres. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, sur Internet, quand tu disais du mal des gens, on te donnait forcément de l'intérêt, parce que si tu dis du mal d'un créateur, bah, son public va venir le défendre. Si tu dis du mal de telle ou telle initiative, il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Et finalement, oui, il y a des gens qui existent comme ça. Tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, chacun choisit sa voie. Mais moi, du coup, c'est pas des gens à qui j'ai envie de donner de la visibilité. Et donc maintenant, même quand un truc me saoule un peu et que c'est gros comme une maison et que c'est pas des ficelles mais des câbles de téléphérique qui maintiennent le truc, bah, je laisse couler en fait. Je laisse couler parce que j'ai mieux à faire, parce que j'ai des vidéos à préparer et que je préfère mettre mon énergie là-dedans plutôt que d'en offrir ne serait-ce qu'une petite parcelle à des sacs à merde, cordialement.
Et oui, et de l'énergie aussi à vivre de manière tout à fait normale, comme tout bon citoyen.
J'ai envie de te
normal.
Dire, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà, mais souvenez-vous de ça.
C'est beau. Mais oui, parce que toi, tu es comme tout le monde, tu jardines, tu cuisines. D'ailleurs, Matt a une deuxième question. Quelle est ta spécialité culinaire?
Bah, c'est évidemment la pizza ananas. Hein.
Ah.
La, voilà, non, mais bien sûr, la hawaïenne poulet barbecue, hein, la meilleure pizza du monde.
D'accord. Eh ben, si vous
Quelle
voulez approfondir la question, c'est dans un autre numéro dont je ne sais plus lequel. Je sais plus lequel c'est.
Écoutez-les tous, vous verrez lequel c'est et laissez-nous en commentaire la réponse.
C'est ça. Et surtout, vous allez apprendre des choses beaucoup plus intéressantes que la réponse de Chris à cette question. Il est comment son caca du matin? Alors, donc c'est Azertov qui pose cette question sur Twitter et qui dit par rapport au dernier épisode, mais comme je dormais pendant le dernier épisode, je ne sais plus pourquoi il dit ça. Mais tu as dû parler de ton caca du matin dans le dernier épisode, j'imagine.
Absolument pas.
Je pense qu'il fait référence au cacastagram.
Je pense qu'il fait référence au cacastagram
ah oui
de Matt.
C'est possible. Absolument.
Écoute, mon caca va bien également. Je n'ai pas de problème de transit. Voilà, j'en suis assez content d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de transit. On n'en parle pas assez. C'est important. Il faut manger des fibres, les gens. Moi, ça va. Moi, ça va bien.
Tout à fait. Et dernière question d'un certain estamineur de sur Twitter qui demande.
Vraiment,
que...
c'est vraiment les questions sont vraiment posées par des gens, mais en plus on ne les connaît pas.
T'as vu?
Mais c'est incroyable.
Est-ce que Chris peut nous raconter l'épisode 12, l'épisode disparu? Quelle est cette histoire? J'étais même pas là.
Ben oui, l'épisode 12, c'est un épisode sans Valentin, dont Matt a perdu la piste audio qui le concerne. Donc du coup, cet épisode n'existera jamais. Voilà.
Mais c'est dramatique. Mais du coup, est-ce que vous étiez que tous les trois, du coup?
Non, absolument pas. Nous avions une invitée. Nous avions Cécile Osorius, son invitée, qui devait nous parler de cosplay.
Bah, elle nous a parlé de cosplay, en l'occurrence.
Oui, bah oui. Enfin, c'était le pitch de l'émission.
Mais et, du coup, faudra la réinviter, alors?
Eh ben, il faudrait peut-être remettre ça, oui. Et que cette fois-ci, Matt ne perde pas sa piste audio.
Eh ben, c'est formidable tout ça. Pour ma part,
c'est vraiment génial, oui.
Ça t'a plu parce que d'habitude t'aimes rien.
Non, je suis. C'est vrai que oui, on m'a pas demandé mon rôle, mais c'est vrai que moi, je suis le mec qui n'aime rien.
Vrai.
Le mec qui n'aime rien et qui rigole dans le fond. C'est les deux traits qu'on me trouve apparemment dans cette émission. Ça, c'est vrai d'ailleurs, donc.
Eh bien, moi, pour ma part, je te laisse la parole, car tu vas passer de l'autre côté du miroir.
Alors ça, c'était vraiment une transition effrayante. Bon, moi, je vais poser des questions à Matt. J'ai rien préparé, parce que bon, ça
on a autre chose
chier.
À foutre.
Voilà, franchement, j'ai autre chose à foutre. Bah, comme je disais, hein, que de donner mon temps à des sacs à merde. Bon, Matt, en vrai, moi, j'ai une vraie question. Toi, t'es un homme de radio. T'as toujours fait de la radio à différents niveaux. T'as animé des émissions. T'as créé des formats, des podcasts, etc. Je connais ton amour pour la FM des années 80-90. Comment t'es passé? Déjà, bonjour, Matt. Et
bonjour,
comment t'es
Chris,
passé?
Qu'est-ce que je te sers?
Ça va, et toi? Non, rien, merci. Je vais continuer à entretenir mon transit.
Je conduis après.
Ouais, voilà, c'est moi qui conduis. Comment t'es passé de j'adore écouter la radio et je suis, enfin, je sais pas si t'étais fan d'animateur radio, mais t'étais en kiff quand t'écoutais ces émissions-là à je veux en faire. Parce que tout le monde, il y a plein de gens qui sont des... Moi, par exemple, je suis un lecteur de comics passif. Tu vois, je lis des comics, mais je fais pas de comics. Il y a plein de gens qui ont des passions et qui sont pas pour autant des créateurs et qui vont pas... Il y a plein de gens qui consomment de la vidéo, de la musique ou de n'importe quoi et qui vont pas foncièrement se mettre à jouer de la musique ou à tourner de la vidéo. Comment tu t'es dit « je vais faire de la radio » ?
En fait, j'aurais bien fait des comics aussi, mais je dessinais mal quand j'étais petit. J'aimais bien les libres antennes. Alors, on parle des libres antennes des années 90, tout ça. Et j'aimais bien ces trucs-là. Et je trouvais que les mecs avaient un vrai talent. Il y avait des vrais punchlines. On rigolait et tout. Et en fait, j'ai beaucoup rodé.
Ok, boomer.
J'ai beaucoup rodé. Non, mais je vais te parler de choses qui existent encore, tu vois. On peut plus y aller parce que c'est fermé avec la Covid. Mais genre les lycées, les cours de lycée, tout ça. C'est là où j'ai rodé en fait mon côté un peu. J'écoutais beaucoup de mecs qui faisaient du. Par exemple, dans Arthur les Pirates, Manu Lévy qui fait la matinale de NRJ. Il était en sniper, donc il interrompait en permanence l'animateur principal qui était Arthur pour sniper et faire des blagues. Et je trouvais ça très très drôle. Et il s'avère que quand je faisais le même type d'humour où j'interrompais la personne qui parle pour faire des blagues dans la cour de lycée, eh bien ça faisait un peu ricaner mes camarades. Et je me suis dit, y a peut-être un truc à creuser autour de ça. Et puis de toute façon, c'est tellement cool d'être dans un média et d'être payé juste pour dire des blagues et faire rire tout le monde que c'est cool, c'est ça que j'ai envie de faire. Après je sais pas, c'est une orientation, enfin j'en sais rien. Je sais pas si c'est beaucoup plus concret que ça, tu vois, mais c'est juste ça me faisait kiffer à ce moment-là, c'était un peu il y a à la fois, c'est un truc en plus, c'est à la fois un truc créatif, un truc un peu public où t'as le côté un peu ouais, je suis une resta, mais en même temps t'es à la radio, donc on voit pas ta tête, t'es pas très connu, tout ça, c'est avant internet évidemment. OK boomer. Du coup, il y a en même temps ce que tu disais tout à l'heure sur le côté ombre et lumière. Tu peux profiter de ta part de lumière parce que c'est toujours un peu sympa d'être le mec célèbre, un peu connu, tout ça. Et puis à la côté de ça, t'es pas emmerdé, tu peux faire tes courses tranquilles parce que personne connaît ta tête, quoi. Donc il y avait le mélange un peu entre ces deux trucs-là, quoi. Puis voilà, ça c'était rigolo. Ça semblait facile.
Voilà, c'était ma seule question. Je pensais que tu aurais une réponse plus longue.
j'ai l'impression de faire très long. En fait, je me suis tenu pour pas faire trop long.
J'ai d'autres questions parce que ça va dans la continuité. Et du coup, t'as toujours été aussi un fédérateur. C'est-à-dire que t'as toujours voulu monter des projets et t'as toujours emmené des gens avec toi dans ces projets-là, que ça soit en matière de radio, d'émissions un peu orientées musique. T'as monté un label, t'as créé le site lescomics.fr, t'as créé un collectif. Aujourd'hui, t'es quand même l'animateur de Les Stamineurs, on peut le dire. Je veux dire, c'est pas un secret.
Et c'était pas mon idée, Les Stamineurs.
Animateur, je sais pas. En tout cas, aubergiste, ça oui.
Ah, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de contester mon pouvoir. c'est une petite voix que j'entends dans le fond de la pièce.
Que vous n'entendrez plus d'ailleurs à partir des prochains épisodes.
Ne vous habituez pas, Yanda, il sera remplacé par un professionnel.
Mais d'un coup, là, tu me mets le doute. C'était une idée de qui? Je ne sais même plus, du coup, Les Stamineurs. Je digresse.
À l'origine de Les Stamineurs, on discutait ensemble sur une messagerie Facebook privée dans laquelle nous sommes tous les quatre. On a commencé pendant le confinement à discuter de plus en plus et à passer en snap audio et à se raconter des conneries en audio. Et on se faisait tellement rire nous-mêmes qu'on s'est dit peut-être que ces échanges-là, on pourrait en faire quelque chose et faire rire aussi les autres avec ça. Alors évidemment, tout n'était pas diffusable dans ce qu'on disait, puisque nous disons des horreurs, hein, avouons-le, pour épater la galerie, dans une sorte de surenchère virile,
ouais, c'est
mais,
un peu ça, ouais.
Mais amicale. Et du coup, voilà, on a eu l'idée de monter un.
Alors, oui, c'était un truc un peu commun. Enfin, on a. Oui. Je sais même pas d'où est venue l'idée de base, en fait.
Alors le titre, c'est Chris qui a trouvé le titre.
Oui, ça, je m'en souviens.
Après, oui, mais c'est pas moi qui ai fait germer ce truc-là. Je pensais pas repartir sur un podcast sous cette forme-là, vraiment chill, à la cool, sans production, qui ressemble pas du tout. Ah bah, justement, je viens de la FM, vraiment produite avec des jingles, de l'habillage et tout ça, donc.
Donc Matt, il dit non mais sans production, sans chichi, le gars a commencé à spécialiser le son, tout ça, tout ça. Mais c'est sans chichi, quoi. Je veux dire.
C'est mieux là. On est. Il y en a qui parlent
tout à gauche dans les casques, mais.
Ouais, moi je suis plutôt à gauche dans le casque, à gauche centre, moi. Mais non, mais c'est mieux comme on se parle tous ensemble, autant que les gens aient l'impression. Enfin, c'est en fait l'idée en écartant, en spatialisant le son. Et vous direz si ça marche chez vous, mais en fait, quand tu fais une soirée avec des potes et qu'ils parlent, bah tes potes ils sont pas tous au milieu à se marcher dessus. T'en as un peu à gauche.
Parce que moi j'aime
pas
le désordre, donc je fais aligner les gens. Je dis hey, vous restez bien en ligne.
Ils sont en file
indienne
sur un bord, ces potes, quand ils viennent à la maison. Et du coup, là, si t'écoutes les staminaires, toi t'es bien au milieu et t'as nous qui sommes tes amis. Et qui parlons autour de toi et qui racontons des conneries, quoi.
C'est un peu oppressant. J'en reviens donc à ma question. T'as toujours été un fédérateur. Est-ce que finalement, c'est parce que tu t'aimes bien entraîner des gens dans tes bêtises, ou est-ce que c'est parce que finalement t'es aussi un peu un homme de l'ombre et que tu préfères, tirer avec toi des gens vers le haut, les pousser à être créatifs et pouvoir bosser avec eux? Pour pas genre récupérer tous les lauriers et dire non c'est pas moi, genre si l'émission fonctionne c'est pas moi, c'est grâce à Ayanda qui est super calé en tech et Valentin qui fait du super quiz et Chris qui est le mec le plus drôle de la Terre.
En fait c'est là que je me rends compte qu'on se connaît pas aussi bien que ça. Non mais sérieusement, j'ai pas toujours été un fédérateur, j'ai beaucoup fait de projets tout seul parce qu'en fait, je travaillais tout seul.
En fait, c'est pour te faire parler de toi, quoi, c'est tout. C'est pas, je m'en bats les couilles. Mais je me dis, les gens, tu vois, les gens, ils écoutent, ça leur fait un truc. Ils sont venus pour qu'ils en aient pour leur argent, quoi.
Ça a failli marcher parce que j'étais lancé, mais du coup, comme j'ai été interrompu, j'ai perdu le fil de ce que je disais. C'est dommage.
Que tu as commencé à faire des trucs.
En fait, oui, au début, je commençais à faire des trucs tout seul parce que c'est quand même plus facile de travailler tout seul. Parce que t'as pas besoin de convaincre les personnes en face.
Oui, je confirme.
Et du coup, quand j'avais une idée de bricoler une émission de radio dans mon coin, j'ai bricolé vraiment une émission de radio dans mon coin. Et alors d'ailleurs, anecdote, à tel point j'avais besoin d'être sûr de ce que je faisais et je voulais travailler tout seul. Ma première émission de radio, c'était une émission où on faisait découvrir des groupes de rock indé et où il y avait des sketchs. Et pour la deuxième saison de l'émission, un pote avec qui je travaillais à l'époque me dit « Bah tiens, j'ai trouvé un mec qui fait un peu des sketchs sur le rock, qui fait des trucs d'humour. On pourrait placer des pastilles d'humour à lui dans l'émission et puis ça pourrait être cool, quoi. » Et moi, j'étais plutôt en mode « Bah attends, le mec, je sais pas trop qui c'est, je sais pas, faudrait que j'écoute avant et tout. » Et du coup, visiblement, je l'ai saoulé. Il m'a un peu envoyé chier et le truc s'est jamais fait. Le mec en question, c'est Thomas VDB, qui aujourd'hui a une petite carrière tranquillou bilou.
C'est vraiment un découvreur de talent, toi. C'est toujours du flair pour ça. Hein.
Ah bah, influenceur d'influenceur.
Et du coup, j'ai réussi à me fâcher avec, pas avec lui en direct, mais avec mon pote qui voulait le placer avant même, toi, d'écouter ce qu'il faisait. En fait, j'étais plutôt. Bref, tout ça pour dire que non, j'ai d'abord beaucoup travaillé tout seul parce que c'est plus facile de fabriquer des choses tout seul et que le processus de réflexion est quand même raccourci. Après, le problème, c'est que quand tu es tout seul, tu n'as pas de contradicteur et globalement, quand on est tout seul, on a relativement mauvais goût parce que des trucs où tu t'ambiances tout seul, où c'est drôle, où tu te fais rire toi-même, tu finis par le produire, tu finis par le diffuser et en fait, c'était pas très drôle. Et travailler avec des gens, c'est aussi avoir un regard extérieur sur tout ça. Parfois, avoir un coup de main sur les trucs que tu sais pas faire. Tous les trucs que je savais pas faire, j'ai dû apprendre à les faire. Et du coup, non, moi, j'avais plutôt envie de partager des choses avec les gens. Notamment faire découvrir des groupes que j'aimais bien, parler des BD que j'aimais bien et ce genre de choses. Plutôt que vraiment l'envie de travailler avec des gens et de faire des projets communs. Et quand on a monté lescomics.fr, et qu'on a lancé ce site qui était au début un collectif, une fédération de mecs qui faisaient des vidéos, de mecs et de filles d'ailleurs, qui faisaient des vidéos sur les comics sur YouTube, chacun dans leur coin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. L'idée, c'était pas de devenir une sorte de chef de bande et de fédérer tout le monde, mais c'était plutôt de trouver une solution pour faire découvrir à plus de monde les YouTubers que j'aime bien. Encore une fois, mon truc, c'est plutôt de faire découvrir des choses aux gens plutôt que de fédérer des gens autour de moi.
Et t'as raison, tu parles du regard des autres, c'est vrai que c'est très important parce que je vois cette émission, on rigole tous beaucoup ensemble et en fait une fois qu'elle sort, en fait non, c'est pas drôle non plus, mais je sais plus ce que je voulais poser comme question, j'ai rien préparé.
Tu t'es auto-interrompu avec ta propre blague.
Je me suis auto-interrompu avec cette très mauvaise blague. Non mais ouais, enfin moi ce qui ça m'a toujours épaté parce que t'es quelqu'un qui est tout le temps en action, tu vois, t'es tout le temps dans la création, dans la production et enfin on partage un peu ça parce que je sais pas non plus rester sans rien faire, mais est-ce que finalement ce n'est pas un petit peu l'expression d'autres problèmes plus profondément enfouis chez toi bah...
Tu parles de cette fuite en avant permanente?
Non, mais en vrai, t'es à fond dans, tu l'as dit toi-même, quand on a parlé notamment des figurines ou des Heroclix, quand tu te lances dans des trucs, c'est à fond, quoi. Et en fait, une fois que t'es arrivé au bout, t'as besoin de sauter sur autre chose. Et, enfin, tu vois, t'es toujours à fond dans un projet, mais tu t'ennuies assez rapidement dans tes projets. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai quand je te vois travailler.
Là, c'est plutôt une bonne impression, je suis assez d'accord avec toi, et je fais ce constat aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à refaire quelque chose que j'ai déjà fait, tu vois. On a fait,
J'arrive quand même à chier tous les matins.
Ouais, mais tu vois.
Excellent.
J'en avais jamais fait quelque chose. Le fait d'ouvrir un compte sur Instagram, Cacastagram, c'est la première fois que je réussis à faire quelque chose avec ça. Mais c'était jamais. D'ailleurs, découvrez chaque jour mes nouvelles productions sur instagram.com/caca.stagram pour découvrir l'intégralité de tout ça.
Parce qu'il existe déjà un compte Cacastagram en un seul mot.
Oui, il y a quelqu'un qui squatte la marque. Ouais. Alors, je vais pas pouvoir lui racheter. Ouais. Mais ma production est beaucoup plus intéressante que la sienne.
C'est vrai.
Non, mais tout ça pour dire que tous les trucs que j'ai fait, je peux en être content, pas content, avoir un regard dessus. En fait, c'est pas des trucs que je pourrais refaire. Tu vois, typiquement, la question s'est posée sur est-ce que, à la fin de lescomics.fr, est-ce que je referais pas une chronique radio comme la sélection comics où je faisais découvrir des BD et qui était diffusée sur plein de radios, c'était cool. Mais j'ai pas de plaisir à le refaire puisque je l'ai déjà fait. Le défi a déjà été relevé, tu vois, il me semble. Avoir des radios pour le faire, bah, je l'ai déjà fait. Refaire une chronique quotidienne, bah, je sais qu'il faut lire des trucs, il faut écrire, il faut produire. Il y a beaucoup d'avantages. Tu deviens chroniqueur, tu peux recevoir des bouquins de la part des éditeurs, tu touches un peu de droits d'auteur. Il y a plein d'avantages à le faire, mais il n'y a pas de défi en fait à refaire qu'un truc que t'as déjà fait. J'ai besoin de nouveaux espaces à conquérir. Comme disaient nos amis qui ont génocidé les natifs américains, hein, qui sont allés piller l'or dans les grottes. Voilà.
Ah,
quelle étrange conclusion. Écoute, ça
ah,
va.
Ah, c'était pas la conclusion. Moi, j'avais encore envie de parler de
ça
moi.
Ça va amener ma dernière question justement. Bah, du coup, ça tombe bien. C'est quoi ton prochain défi alors? C'est marcher sur la lune, retrouver le respect qui a disparu, ou alors conquérir l'Amérique visiblement. Je ne sais pas.
En fait, non. Là, c'est la première fois qu'on fait un format du coup sans production et qu'on fait du contenu comme ça. Avec des gens et donc avec vous, donc c'est les staminaires, c'est rigolo à faire. Après, je suis.
Parle pour toi.
Tu parlais de tout à l'heure de périodes de création dans lesquelles on est plutôt actif et puis après on a des coups de mou et puis après on est réactif et on refait des trucs. Voilà. Bon, moi je suis plutôt dans la période coup de mou en ce moment, donc on verra quel est le prochain projet. Après, moi je m'enflamme très vite pour des trucs. Je peux pas te. Et quand je lance une idée, il faut qu'elle se réalise tout de suite en fait. Donc il y a quelque chose qui va me tomber dessus à un moment et je vais être concentré à fond dessus et produire quelque chose dessus. Mais après moi je dépends pas de la pense
à une météorite éventuellement.
Ouais, voilà, j'allais dire j'espère que ce sera pas une poutre mais on est sur le même ouais, c'est bien.
On peut produire plein de trucs, il y a qu'une poutre. Après je suis comme ça dans la vie, tu vois. Enfin là je suis par exemple, je suis retombé dans Assassin's Creed. J'ai relu les comics, j'ai fini les DLC dans les jeux que j'avais pas fait, j'ai remarqué qu'il y avait des morceaux de jeux que genre Assassin's Creed Rogue par exemple que j'avais jamais fait donc je suis en train de le faire. Là en ce moment je suis à fond dans le côté à fond dans le lore et l'univers d'Assassin's Creed que je creuse un peu de manière compulsive comme j'ai pu le faire. Du coup je suis comme ça aussi dans la sphère privée en fait, dans les trucs que vous ne voyez pas.
D'accord.
Laisse, ne monte pas ce silence, tu le laisses.
Non, je pense qu'il va y avoir un départ de bombe de secours. Il va y avoir un détecteur de blanc qui va. Ça marche pas.
Merci Matt. Et moi, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler de toi. Ça me.
Et du coup.
J'espère que ça intéressera aussi les gens qui sont pas tous barrés.
Bah, ils sont partis avant. On a eu 10 minutes de crise de Comics Race, donc les gens sont partis depuis longtemps, évidemment.
Oui, ils ont eu raison, moi, j'aurais fait pareil.
Sur Spotify, ce qu'on vient de se dire va être installé comme trailer, comme bande-annonce. C'est-à-dire que vous pouvez écouter les épisodes de Staminerd, ou alors vous pouvez commencer par cette petite bande-annonce qui nous présente, parce que ça y est, vous en savez un peu plus sur nous. On vous laisse avec une quinzaine d'épisodes de Staminerd à découvrir. Si vous avez encore envie d'écouter tout ça après ce que vous avez entendu, Les Staminerd, c'est sur estaminerd.fr, c'est sur Google Podcast, c'est sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Podcast Addict. Et c'est sur Facebook en vidéo. On le dit pas assez souvent, mais c'est un podcast audio.
C'est vrai.
Qui s'écoute en vidéo. Pourquoi pas? Après tout.
Après tout, qui sommes-nous pour juger?
Mais bien sûr.
D'ailleurs, bon, du coup, commentez, hein, notez, partagez, parlez-en à vos amis. Les 5 étoiles, évidemment, pour faire connaître le podcast. Et puis après, au-delà de ça, on espère que vous vous amusez un peu avec nos conneries et que bah, peut-être vous apprenez des choses et que au moins on vous détend. Peut-être que vos vaisselles sont moins moroses quand vous écoutez cette émission, Les Staminerdes. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre en podcast aujourd'hui. Donc, bon, autant écouter ça, voilà.
Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui mettent 2h30 à faire la vaisselle? Enfin, beaucoup, beaucoup de vaisselle quand même, non?
Je sais pas.
Ça s'accumule vite.
Non, mais j'ai qu'une réponse de riche condescendant puisque j'ai un lave-vaisselle, donc je...
Ah oui, forcément.
Voilà. Et
oui,
je n'ai pas de blague qui m'est venue. Mais d'ailleurs, je me dis, mon lave-vaisselle écoute peut-être les staminaires parce que le cycle fait 2h30.
Ah oui.
Donc il n'est pas impossible que mon... Je vais regarder. Ouais,
Le mien fait du bruit, donc peut-être qu'il rigole, du coup. Hein, peut-être que c'est son rire.
Et c'est comme ça qu'il fait.
Tu fais vachement bien le lave-vaisselle. Voilà.
Ouais, la vaisselle qui rigole.
Ouais, la vaisselle qui rit, absolument.
La vaisselle rit comme ça, Rennes. Bref, voilà. Et voilà. Les 5 étoiles, les commentaires. Bisous, à bientôt.
Et surtout,
lavez-vous les mains.